Le 20 mai, Yutar transmit à la presse une douzaine d'exemplaires reliés de cuir bleu de sa dernière déclaration. Et un seul à la Défense. Malgré son élégante couverture, le réquisitoire de Yutar était un résumé tronqué des arguments de l'accusation et n'expliquait pas l'inculpation ni n'évaluait les témoignages. Le juge Devette lui-même sembla dérouté par la déclaration de Yutar et à un moment il l'interrompit pour lui dire « Monsieur Yutar, vous reconnaissez donc que vous n'avez pas réussi à prouver que la guerre de guérilla avait été décidée, n'est-ce pas ?» Yutar en fut abasourdi. Il supposait exactement le contraire. La question du juge nous étonna nous aussi car elle nous redonnait espoir. Yutar dit en hésitant à la cour qu'on avait bien fait des préparatifs pour la guerre de guérilla. « Oui, je le sais, » répondit Devette avec impatience, « la Défense le reconnaît. Mais ils disent qu'avant leur arrestation, ils n'avaient pris aucune décision pour s'engager dans la guerre de guérilla. Je note que vous n'avez aucune preuve pour contredire cela et que vous l'acceptez. Comme vous voulez, » dit Yutar d'une voix étranglée. Bram Fischer prit la parole ensuite avec l'intention de s'attaquer aux deux affirmations les plus graves de l'accusation, que nous avions entrepris la guerre de guérilla et que l'ANC et MK formaient une seule et même entité. Devette avait dit qu'il pensait que la guerre de guérilla n'avait pas encore commencé, mais nous ne voulions pas prendre de risques. Quand Bram se lança dans le premier point, Devette lui dit d'un ton irrité « Je pensais avoir été très clair. J'ai accepté qu'aucune décision n'avait été prise ni aucune date fixée pour la guerre de guérilla. » Quand Bram attaqua le second point, Devette l'interrompit de nouveau pour lui rappeler qu'il avait aussi accepté le fait que les deux organisations étaient séparées. Bram, toujours prêt à tout entendre, fut surpris par la réponse du juge. Alors il se rassit. Le juge avait accepté ses arguments avant même qu'il les eût exposés. Nous étions fous de joie si toutefois l'on peut dire que des hommes qui risquent la peine de mort soient joyeux. Le jugement fut mis en délibéré. Le verdict ne serait rendu que 3 semaines plus tard. Le jeudi 11 juin, on nous rassembla au palais de justice pour entendre la lecture du verdict. Devette ne perdit pas de temps. Il parla d'une voix basse et rapide. « J'ai noté les raisons qui m'ont amené à ces conclusions. Je ne propose pas de les lire. » L'accusé numéro 1 est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. L'accusé numéro 2 est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. L'accusé numéro 3 est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Devette déclara chacun des principaux accusés coupable de tous les chefs d'accusation. Cathy ne fut reconnue coupable que d'un seul, et Rusty Bernstein ne fut reconnu coupable d'aucun et acquitté. « Je ne me propose pas d'aborder la question de la sentence aujourd'hui, » dit Devette. « L'accusation et la défense auront l'occasion de présenter toute plaidoirie qu'elles souhaiteront demain matin à 10h. » L'audience fut levée. Ce soir-là, après en avoir parlé entre nous, Walter, Govan et moi avons informé nos avocats que, quelle que soit la sentence, même la peine de mort, nous ne ferions pas appel. Notre décision les stupéfia. À la lumière de la ligne de témérité et de défi que nous avions suivi, faire appel aurait semblé contradictoire et même décevant. Nous voulions dire ainsi qu'aucun sacrifice n'était assez grand dans la lutte de libération. J'étais prêt à subir la peine de mort. Pour être effectivement prêt à quelque chose, on doit s'y attendre vraiment. On ne peut être prêt à quelque chose si l'on ne croit pas secrètement que cela arrivera. Nous étions tous prêts à la mort, non pas parce que nous étions courageux, mais parce que nous étions réalistes. J'ai pensé à ce vers de Shakespeare. « Soyez résolus devant la mort, et la mort et la vie vous seront plus douces. » Le vendredi 12 juin 1964, nous sommes entrés dans le tribunal pour la dernière fois. À l'intérieur, la salle était comble, et il ne restait de la place que pour la presse nationale et internationale. J'ai fait un signe à Winnie et à ma mère. C'était réconfortant de les voir. Ma mère avait fait le voyage depuis le Transkei. Venir dans un tribunal pour savoir si son fils sera ou non condamné à mort doit créer une sensation étrange. Je soupçonnais ma mère de ne pas comprendre tout ce qui se passait. Cependant, son soutien ne m'a jamais manqué. Winnie était tout aussi déterminée et je puisais dans sa force. Le greffier appela « Procès de Mandela et autres ». Le juge de Vette nous fit un signe de tête pour que nous nous levions. J'essayais de croiser son regard, mais il ne regardait même pas dans notre direction. Il fixait un point à mi-distance. Il avait le visage très pâle et il respirait de façon haletante. Nous nous sommes regardés et nous savions. Ce serait la mort. Sinon, pourquoi cet homme, habituellement calme, aurait-il été si nerveux? La voix de De Vette, étouffée jusque-là, devint à peine audible. La fonction de ce tribunal, comme celle de tout tribunal dans n'importe quel pays, est d'appliquer les lois de l'État dans lequel il exerce. Le crime dont les accusés ont été reconnus coupables, le crime principal, celui de conspiration, est par essence un crime de haute trahison. Ce n'est pas sous cette forme que l'accusation a décidé de poursuivre ce crime. Me souvenant de ce point et apportant à cette question la plus grande attention, j'ai décidé de ne pas prononcer de peine capitale, qui, dans un cas comme celui-ci, serait la peine adaptée au crime. Mais conscient de mon devoir, je ne puis aller au-delà de cette attitude indulgente. Pour tous les accusés, la sentence sera l'emprisonnement à vie. Nous nous sommes regardés en souriant. Il y avait eu un grand mouvement de surprise dans le tribunal quand De Vette avait annoncé qu'il ne nous condamnerait pas à mort. Mais il y eut beaucoup de consternation parmi l'assistance, parce que certains spectateurs n'avaient pas pu entendre la sentence de De Vette. La femme de Denis Goldberg lui cria « Denis, qu'est-ce que c'est ?»« La vie !» lui cria-t-il en souriant. « La vie !» Vivre. Je me suis tourné et j'ai fait un large sourire au public en cherchant le visage de Winnie et celui de ma mère. Mais il y avait une grande confusion dans le tribunal. Tous les gens criaient et la police poussait la foule dans tous les sens. Je ne les voyais pas. J'ai fait le salut de l'ANC en levant le pouce, alors que beaucoup de spectateurs se précipitaient à l'extérieur pour aller communiquer la sentence à la foule. Nos gardes ont commencé à nous pousser vers la porte qui conduisait au sous-sol. Et j'ai eu beau chercher le visage de Winnie, je n'ai pas pu l'apercevoir avant de passer la porte. Cette nuit-là, allongé sur le sol de ma cellule, j'ai passé en revue les raisons de la décision de De Vette. Les manifestations dans toute l'Afrique du Sud et les pressions internationales avaient sans aucun doute pesé dans son esprit. Les syndicats du monde entier avaient protesté contre le procès. Les syndicats de dockers avaient menacé de ne plus charger les marchandises pour l'Afrique du Sud. Le premier ministre russe, Léonid Brejnev, avait écrit au docteur Fairvold pour lui demander son indulgence. Des membres du Congrès des États-Unis avaient élevé une protestation. 50 membres du Parlement britannique avaient organisé une marche dans Londres. Le ministre des Affaires étrangères britannique travaillait en coulisses pour nous aider. Adlai Stevenson, le représentant des États-Unis aux Nations Unies, avait écrit une lettre disant que son gouvernement ferait tout pour empêcher une condamnation à mort. De Vette savait que si nous étions exécutés, l'immense majorité du peuple le considérerait comme un tueur. Pourtant, la pression des siens était encore plus grande. C'était un Afrikaner blanc, un produit du système sud-africain. Il n'avait aucune envie d'aller contre l'ensemble des croyances qui l'avaient formé. Il avait succombé à ses pressions en nous condamnant à la prison à vie. Et il leur avait résisté en ne nous condamnant pas à mort.